Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire co-présentés avec le site d'information Atlantico. Avant de commencer, un petit rappel afin que nous puissions nous développer, n'hésitez vraiment pas à soutenir Storia Voce, donner 10, 5 ou même un seul petit euro via PayPal ou par virement bancaire. Si chaque auditeur donne 1 ou 2 euros, eh bien nous pourrions assurer 3 fois plus d'émissions. Ce don ne vous prendra que quelques clics, nous comptons sur vous. Rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous sur la page d'accueil, notre association compte sur vous. Olivier Dard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons déjà enregistré une émission ensemble, un cours d'histoire consacré au conservatisme. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, à Paris 4. Vous travaillez aussi dans le cadre de ce qu'on appelle l'UMR, l'unité mixte de recherche avec Paris 1 et le CNRS dans le cadre du laboratoire en histoire des relations internationales contemporaines et des mondes étrangers. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, vous avez dirigé récemment avec les historiens Jacques-Olivier Boudon et Éric Anceau une histoire des internationales en Europe, évidemment, et au 19e et 20e siècle. Les actes de ce colloque sont sortis, ils ont été publiés aux éditions du Nouveau Monde. Ce cours d'histoire, vous l'aurez compris, est consacré à l'internationalisme. Qu'est-ce que l'internationalisme? Olivier Dard, quand on parle d'international, on pense immédiatement à l'international rouge, à la fameuse chanson d'Eugène Potier, l'international, écrite pendant la Commune de Paris en 1871. Pourtant, on ne peut circonscrire l'international à un moment particulier de l'histoire politique. Il existerait des internationales?
Oui, alors écoutez, c'est ce qu'on a essayé effectivement de montrer à travers ce livre collectif. Alors, qui est le produit en fait d'une série de séminaires que nous avons tenus donc effectivement à la Sorbonne. Alors, des internationales, oui, parce que pendant très longtemps, effectivement, l'international était assimilé à l'international socialiste, ou plutôt aux internationales socialistes, et bien entendu à l'international communiste, la plus célèbre étant la troisième internationale, la célèbre Comintern. Alors, ce que nous avons essayé de montrer, c'est que l'internationalisation ne concerne pas uniquement au plan politique que les forces de gauche, socialistes et communistes, mais qu'elle concerne bien d'autres forces politiques, et ce, d'ailleurs, avant même la naissance de la première internationale qui remonte aux années 1860, puisque nous avons décidé de faire commencer cette histoire des internationales avec l'internationale libérale qui démarre au lendemain de la Révolution française.
Donc, on peut dater l'invention de l'internationalisme au début du 19e siècle.
Oui, si on prend, au fond, tout dépend de ce qu'on va appeler l'international, ou la notion d'international. Au fond, on a essentiellement défini la notion d'international, en partant des internationales socialistes et communistes, comme une entité fondée sur une organisation structurée. Une organisation structurée autour effectivement, une institution pivot à laquelle adhéraient un certain nombre d'organisations et évidemment l'institution pivot donnait, la ligne, la doxa à l'ensemble. Alors, notre pari ici a été de considérer que, effectivement, au tournant des 18e et 19e siècles, ce qui est tout à fait frappant, c'est d'une part l'internationalisation, ou au moins l'européanisation d'un certain nombre de combats, et nous avons en particulier insisté par exemple sur toute l'importance des mercenaires, des combattants volontaires pour des causes les plus variées qui vont de la défense de la Révolution française jusqu'ensuite aux combats légitimistes dans l'Europe du 19e siècle, donc défense de combats européanisés, internationalisés, et le souci qu'ont eu ces acteurs, sans passer véritablement par une organisation fêtière en quelque sorte, mais d'entretenir entre eux un certain nombre de liaisons de contact pour justement affirmer, j'allais dire collectivement, un certain projet, un certain idéal collectif. Au point que certains historiens, et je pense en particulier à un historien comme Emmanuel Jouze, par exemple, a pu parler d'une internationale informelle, opposant l'internationale formelle dont je parlais il y a un instant, hein, donc cette internationale avec cette organisation fêtière, à une, ou plutôt des internationales plus informelles, mais qui sont en même temps extrêmement importantes, car elles signifient pour un certain nombre d'acteurs engagés un moyen de reconnaissance d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre. On se reconnaît dans un combat commun.
Alors, par exemple, le printemps des peuples au XIXe siècle, les mouvements révolutionnaires qui sont à la fois populaires mais aussi libéraux, avec des visées idéologiques bien précises, vous le placez, ce printemps des peuples, dans le premier ou le deuxième, la deuxième catégorie?
Non, plutôt dans une catégorie plus informelle, si vous voulez, parce que derrière la notion d'international, il y a aussi l'idée d'un chef d'orchestre clandestin, c'est-à-dire au fond
une sorte de grand patron.
Voilà, qui est derrière? Alors, dans certains cas, il n'y a pas besoin de se poser la question. L'international communiste, la troisième internationale, le Comintern, le grand patron...
C'est Moscou.
Dans d'autres cas, il n'y a pas forcément ce grand patron ou ce chef d'orchestre clandestin. Cela ne veut pas dire, évidemment, que les acteurs ne soient pas sans lien entre eux, encore une fois, et sans volonté d'affirmer la communauté d'un combat. Ce qui permet, par exemple, d'expliquer comment un certain nombre de militants vont pouvoir passer, en fonction des conjonctures, d'un pays à l'autre, d'un combat à l'autre. Vous avez véritablement, à travers également cette notion d'international, la naissance aussi d'une notion qui est très importante au 19e et 20e siècle, qui est la notion de soldat politique.
Est-ce que l'internationalisme et le cosmopolitisme mènent le même combat?
Pas forcément. Enfin, on est sur deux choses, me semble-t-il, différentes, si vous voulez. On est sur deux choses différentes, car, encore une fois, l'international... On pourrait très bien imaginer d'ailleurs une internationale des cosmopolites. Bon, tout est possible. La place est à prendre. On nous a reproché, d'ailleurs, effectivement, l'absence de certaines internationales. Effectivement, il y en a sans doute encore plus que celles que nous avons traitées. Mais ce qui me paraît le plus important à souligner ici, pour définir ce que nous avons appelé au fond ces internationales, c'est en même temps la dimension idéologique qui joue un rôle fondamental. De quelles internationales parle-t-on dans ce livre, pour être tout à fait concret? Il y a bien sûr les internationales rouges dont on parlait, mais il y a aussi les anarchistes, il y a aussi les catholiques, il y a les libéraux. Bref, il y a toute une série de familles politiques ou de familles de pensée. On pourrait très bien travailler aussi sur les internationales maçonnes, etc., qui jouent effectivement un rôle important et qui mettent en avant, derrière le combat internationaliste, la volonté de voir privilégier dans les espaces publics de différents États considérés un certain nombre de vues qu'elles estiment justement sortir ou devoir être sorties d'un cadre national exigu pour justement fédérer un certain nombre de sociétés. Alors, ce n'est pas du cosmopolitisme, me semble-t-il, hein. C'est beaucoup plus, au fond, une internationalisation des enjeux, une internationalisation des combats et des luttes.
En vous écoutant, je pense au combat de la SDN, la Société des Nations, entre les deux guerres, au combat de l'Organisation des Nations Unies. C'est une forme d'internationalisme, l'ONU?
Non, c'est une forme d'internationalisation,
mais pas d'internationalisme.
Non, pourquoi? Parce que les États jouent un rôle fondamental. Alors, vous pourriez très bien me dire qu'avec la troisième internationale de Moscou, il y a une sorte de confusion des rôles entre, d'une part, effectivement, le Comintern et l'État soviétique, le parti soviétique, bien sûr. Mais ne mélangeons pas non plus tout. L'ONU, enfin la SDN, l'ONU, ce sont des organisations internationales dominé par des États, et il n'est pas d'ailleurs nécessairement question dans le cadre de l'ONU que ces États soient appelés à disparaître derrière une vision commune. Et d'ailleurs, on sait très bien que sur toute une série de questions, c'est le moins qu'on puisse dire, de la Société des Nations à l'ONU, les États ne sont guère d'accord. Alors que ce qui va, au contraire, fonder la mise sur pied, y compris de ces internationales informelles, c'est le sentiment ou la volonté de partager, de faire partager un certain projet politique commun par-delà les frontières. Ça ne veut évidemment pas dire que les forces politiques nationales ne résistent pas. On l'a vu par exemple avant la Première Guerre mondiale au sein de l'Internationale socialiste. Cette Internationale socialiste, rappelons-le, avant 14, défendait la paix. Les prolétaires n'avaient pas de patrie. On pensait que l'Internationale socialiste allait être en mesure d'empêcher la guerre. On connaît la suite et le ralliement des socialistes des différents pays, français et allemands en particulier, à l'Union sacrée. Donc, on voit très bien que les nations résistent, que les sociétés nationales résistent, mais il y a en même temps une démarche internationaliste d'un certain nombre de forces politiques et de nombreuses forces politiques qu'il est important de souligner.
Donc au même titre qu'il y a la nation et le nationalisme, il y a l'international et l'internationalisme.
Oui, absolument. Mmh. Mais on a même d'ailleurs parfois des nationalistes qui vont vouloir eux aussi, hein, notamment à droite, créer des internationales, une ou des internationales dites noires, blanches.
Alors je reste précisément sur le nationalisme, un nationalisme particulier. On sait que Staline a su cultiver le nationalisme russe pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en assurant bien évidemment la promotion de l'internationalisme communiste. Nationalisme et internationalisme sont donc conciliables ?
Alors, ils l'étaient au moins dans la propagande soviétique. C'est-à-dire que, rappelons qu'avant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de l'Internationale communiste, donc du Comintern, était d'expliquer aux prolétaires européens communistes que ils avaient une patrie qui était l'Union soviétique, qui était la patrie des prolétaires, et qu'à partir de là, dans cette logique, évidemment, il paraissait tout à fait indispensable de défendre la patrie des travailleurs au nom de la défense de la révolution. Alors, vous pouvez trouver l'argument tout à fait spécieux, et les adversaires, évidemment, des communistes ne manquaient pas de le mettre en avant, mais c'est par ce moyen, si vous voulez, que les soviétiques ont avancé ou expliquer mis en scène ce type de discours. Cela étant, on s'est assez vite rendu compte que, du point de vue des communistes eux-mêmes, la question nationale a pu faire ou refaire surface. Je me contenterai d'un seul exemple au tournant des années 60, c'est la rivalité sino-soviétique. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, il n'existe plus, puisque le Cominform qui avait succédé au Comintern avait été entre-temps supprimé. Il n'existait plus d'organisations fêtières telles que nous les avons évoquées, mais il n'en demeurait pas moins qu'il y avait théoriquement un camp communiste, et on voit très bien que, pour le coup, les divergences idéologiques entre les uns et les autres ont rendu impossible une internationale communiste mêlant soviétique et pro-chinois, et que non seulement il n'y a pas eu d'alliance possible, mais que ça s'est même terminé par une guerre à la fois idéologique et militaire entre les deux puissances.
Alors il y avait un anticommuniste qui s'appelait Charles Maurras, qui disait que l'Église était et la seule internationale qui tienne. Le présent est très important. J'allais dire, ça fait 2000 ans que ça dure. En ouvrant votre livre, donc les travaux des séminaires Histoire des internationales, eh bien, avec Éric Canceau et Jacques-Olivier Boudon, eh bien, il y a une contribution, celle de Philippe Chenot, qui Absolument. Est professeur à la Grégorienne, si mes souvenirs sont bons, donc dans une université pontificale. Il parle de la démocratie chrétienne comme une tentative d'international.
Oui, absolument. Car, alors, bon, par rapport à ce que vous dites sur l'international catholique, Effectivement, on pourrait considérer, mais ça nous emmènerait assez loin, que d'un certain point de vue, l'ultramontanisme peut être assimilé à une forme d'internationalisation et que le Vatican jouerait un peu ce rôle d'organisation fêtière dont nous parlions par rapport aux églises locales.
Il y a toujours eu une sorte de l'opposition du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qui est une sorte de constante de l'histoire de l'Église. De la fin du 5e siècle jusqu'à nos jours.
Absolument. Et d'ailleurs, au début de la construction européenne, les communistes ne manquaient pas de stigmatiser dans l'Église catholique et dans le courant démocrate chrétien favorable à l'Europe, ce qu'ils appelaient l'international noir, le noir des soutanes, hein, pour dénoncer l'alliance entre De Gasperi, Adenauer, Robert Schuman, hein, une internationale face à une autre. Mais par rapport aux démocrates chrétiens, j'insisterai sur deux points qui me paraissent importants. La première, c'est que les partis démocrates chrétiens ont tenté effectivement de mettre en place une internationale de type partisan, comme l'avaient fait les socialistes, comme l'avaient fait les communistes et d'autres forces, notamment libérales. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à la dimension justement partisane de la démocratie chrétienne. Mais j'ajouterais que du point de vue catholique, et y compris du point de vue de la démocratie chrétienne ou du catholicisme social pris dans sa généralité, il y a sans doute des traces, et qui mériteraient d'être à mon avis étudiées beaucoup plus finement, d'international informel. C'est-à-dire que il y a le Vatican, bien sûr, qui joue un rôle important. Mais quand on regarde les relations entre les milieux catholiques sociaux français, européens et même latino-américains, on constate une importance tout à fait réelle des relations, notamment tout au long de la fin du 19e et de tout au long du 20e siècle, qui sont absolument passionnantes à étudier, car on voit bien que justement, pour ces milieux politiques, intellectuels, religieux, la notion de frontière n'est pas sans limite et que, effectivement, un certain nombre d'idées, d'acteurs vont circuler d'un pays à l'autre et même, je dirais, d'un continent à l'autre. Si on songe, par exemple, aux relations qu'ont pu entretenir les démocrates chrétiens chiliens, prenons cet exemple, avec un certain nombre de leurs homologues européens.
Votre livre montre bien, encore une fois, je reviens sur l'idée d'un projet commun, un horizon idéologique, une conscience partagée, une organisation, une structure, une stratégie. Certains vont crier au complot. Est-ce que l'internationalisme est lié à l'idée complotiste?
Alors, oui, pour les dénonciateurs de l'international, bien entendu. Alors, et ce doublement. D'abord, un certain nombre d'internationales vont naître de la dénonciation d'internationales existantes. Je prends un seul exemple, l'entente internationale anticommuniste de l'entre-deux-guerres. Un certain nombre d'anticommunistes vont vouloir créer une sorte de contre-internationale communiste avec un échec au bout, mais qu'importe, en considérant que il y a un véritable danger. Alors, ça renvoie bien entendu à l'idée que cette internationale communiste est en train d'ourdir un complot épouvantable contre les sociétés européennes. Bon, complot, on peut en discuter, notamment dans cette France des années 30 où la cagoule s'est beaucoup agitée contre le complot communiste en 1936-1937. Cela étant, l'internationale communiste ne travaille pas pour rien, évidemment, à l'époque du Comintern. Donc, il y a évidemment un projet politique. Mais là où je vous suis tout à fait, c'est par rapport souvent à l'association qui est faite entre, au fond, internationalisme et complotisme. C'est-à-dire que pour toute une presse association qui va essayer, alors quels que soient d'ailleurs les acteurs considérés, de mettre en évidence un certain nombre de relations, de liens entre des personnes, des revues, des forces politiques, etc., il est évident que le mythe de la toile d'araignée fait assez rapidement surface. Alors, toute la question est évidemment de ne pas confondre les efforts qui sont ceux de ces internationalistes avec les résultats réels des tentatives qui sont les leurs. Et on se rend compte que, en la matière, ce sont souvent les États qui gagnent, y compris lorsque les militants internationalistes peuvent ou espèrent un certain nombre de connivences idéologiques de la part de différents régimes considérés.
À vous entendre, on a l'impression tout de même qu'il y a une part de fantasme aussi.
Oui, il y a une part de fantasme, bien sûr, mais je dirais une part de fantasme des deux côtés. Pour préciser ce que je disais à propos des régimes, au moment de la fin de l'Algérie française, un certain nombre de militants vont se retrouver en Espagne, dans l'Espagne de Franco ou dans le Portugal de Salazar. Un certain nombre d'entre eux vont espérer, vont penser naïvement, très naïvement, que ces régimes, parce qu'ils pouvaient entretenir un certain nombre de connivences avec eux, y compris sur le plan de la défense de l'Occident et de la défense de l'Empire, je pense au cas portugais, allaient les soutenir. La réalité a été très différente. L'international noir sous l'égide de l'OAS, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une légende.
Vous avez travaillé dessus.
J'ai travaillé dessus, tout à fait, avec d'autres, avec d'autres. Mais effectivement, mais même si c'est une légende, ce qu'il est intéressant de noter, là ça renvoie à ce que vous disiez sur le fantasme, c'est que à l'époque, dans les années 60 et 70, un certain nombre de journalistes ou de militants de gauche et d'extrême gauche ont voulu y voir la marque de ce qu'on appelait un orchestre noir. Donc si vous voulez, la légende est inséparable d'une certaine mise en scène, d'une fantasmagorie, et ce que l'on dit là pour ces organisations pourrait évidemment se retrouver sur à partir d'autres exemples.
Il y a le fantasme, il y a aussi l'avant-gardisme, c'est-à-dire peut-être une des composantes des internationales, c'est de se vouloir avant-gardiste.
Oui, absolument. D'être au fond en avance sur l'histoire, de grouper au fond les énergies, de grouper les énergies les plus prometteuses pour une idée donnée dans une série de territoires donnés. Oui, ça, tout à fait d'accord.
Est-ce que l'internationalisme n'est-il pas finalement une sorte de fils lointain d'une volonté de domination impériale?
Pour un certain nombre de ses tenants, sans doute. Sans doute. C'est-à-dire l'idée qu'une idée, qu'un projet doit effectivement dominer les autres. Sinon complètement dominer les autres, du moins qu'il sera d'autant plus fort et d'autant plus affirmé qu'il sera capable de nouer des relations à l'extérieur. Pour au fond, c'est un peu, si je puis dire, la théorie du foyer. On va essayer de développer à un endroit, à un autre pour essayer de provoquer, au fond, une sorte de, je n'ose dire explosion, mais de mise en gerbe qui permet évidemment une efflorescence et un développement d'un certain nombre d'idées. Vous parliez tout à l'heure du printemps des peuples, il y a aussi, tout, de ce point de vue-là, tout l'héritage révolutionnaire, ou contre-révolutionnaire, parce qu'il y a aussi une internationale contre-révolutionnaire qu'on a tendance à oublier.
Qui est bien réelle.
Qui est bien réelle.
Alors, pour terminer, Olivier Dard, l'islam, on s'est posé la question de savoir, avec Stéphane Courtois, si l'islamisme était un nouveau totalitarisme. Est-ce que pour vous, l'islamisme est un nouvel internationalisme?
Alors, il se définit comme tel pour un certain nombre de ses partisans. Alors, là aussi, deux choses sont importantes. Dans l'histoire de l'international du terrorisme, l'islamisme, n'est nullement le premier. Premier exemple, il y en a eu d'autres depuis au moins le 19e siècle, du terrorisme russe jusqu'à d'autres exemples. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on retrouve à travers l'islamisme toute une série d'éléments dont on a déjà parlé. Sauf que, on est sans doute davantage avec l'islamisme dans une logique peut-être d'une internationale informelle que d'une internationale formalisée avec un chef clandestin unique ou une organisation fêtière unique. Pas seulement parce qu'il y a des problèmes chiisme, sunnisme, etc., etc., mais parce qu'il y a des organisations en lutte, les unes par rapport aux autres, vous les connaissez, Al-Qaïda, etc., etc., qui, évidemment, se battent pour exercer, au fond, une sorte de monopole sur un certain nombre de combattants. Et là, on retrouve évidemment le souci d'internationalisation, la volonté de transformer alors des individus, non pas en soldats politiques, mais enfin aussi en soldats politiques et religieux, etc., etc., de passer effectivement par le stade de la violence et du terrorisme. on retrouve des choses qu'on a déjà observées ailleurs. C'est une longue histoire.
Dans la série Le Bureau des Légendes, hein, vous connaissez Olivier Dard, lors d'une discussion, on voit deux musulmans évoquer deux conceptions. D'un côté, l'État islamique, et de l'autre côté, Al-Qaïda, qui est une sorte d'international de poseur de bombes. Est-ce que, au fond, l'État islamique, en proclamant un État, n'était-il pas voué à l'échec parce qu'il ne peut revendiquer une terre d'islam dans le monde entier?
C'est d'ailleurs pour le moment, ils ont l'air d'avoir effectivement des sérieuses difficultés pour déjà conserver, ce qui n'est plus le cas, ce qu'ils avaient obtenu. Mais effectivement, Al-Qaïda était tout à fait dans cette logique, au fond, dépensé d'ailleurs par Ben Laden. C'est-à-dire que quand vous lisez les textes de Ben Laden lui-même, qui avait été publié d'ailleurs par Gilles Kepel, on voit très bien que il s'agit de mettre sur pied, et c'est d'ailleurs la force d'Al-Qaïda, à la fois un terrorisme internationalisé et presque en même temps, et ça c'est intéressant, déterritorialisé. C'est-à-dire que dans l'histoire du terrorisme, ce qui est tout à fait fascinant, et notamment avec les attentats du 11 septembre, c'est une forme de déterritorialisation, entre finalement les acteurs qui sont aux origines des attentats et les lieux dans lesquels ils sont commis. Là, pour le coup, à l'échelle de ce que l'on sait de l'histoire du terrorisme, qui m'intéresse beaucoup, c'est un de mes séminaires à la Sorbonne, là on a quelque chose de singulier, qu'on ne retrouve pas dans de multiples autres exemples.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olivier Dard, Histoire des Internationales, un livre dirigé avec vos confrères Éric Anceau et Jacques-Olivier Boudon chez Nouveau Monde Édition. Et je me permets aussi de renvoyer nos auditeurs au Dictionnaire du conservatisme que vous avez dirigé avec Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin, paru aux éditions du Cerf et bien évidemment à notre émission que nous avons enregistrée à l'occasion. Merci beaucoup. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain cours d'histoire très bientôt. Merci.
Merci.